Bienvenue dans ce lieu où nous prions et nous avons prié pour que vous puissiez rencontrer le Dieu de gloire qui croit que notre Dieu est un Dieu glorieux. Amen. Moi, je refuse de vivre une vie misérable. Je refuse de vivre une vie loin de Dieu. Et sachez que si vous êtes là pour la première fois, qu'il y en a qui ont prié, d'autres ont même jeûné. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais il y en a qui sont privés de nourriture pour que vous puissiez rencontrer le Dieu de gloire ce matin. Il y en a qui sont privés de sommeil pour que ce matin, vous puissiez être dans sa présence et être réellement encouragés par son amour. Et nous allons parler d'un thème extraordinaire et comme Emmanuel, pour ceux qui étaient là à la prière, le disait, un thème de joie, un thème de fête, un thème extraordinaire. Je vois Jacques qui est dans les starting blocks, il dit, Romaric, dis-moi tout. Jacques, calme-toi, j'arrive. J'arrive, Jacques. Ne t'inquiète pas, tu seras servi. Dis à la personne à côté de toi, j'ai faim, j'ai envie de manger. Ah! Il faut que tu aies faim et soif. Moi, j'aime servir ceux qui ont faim et soif. La parole de Dieu rassasie, grave. La Bible dit, et Jésus va le dire, il est le pain de vie. Ah, il est le pain de vie. Et le pain que je vous sers ce matin, le titre de mon message, il est temps de se repentir. Rien que ça, j'ai envie de me lever et de dire yes! Ouais, il est temps de se repentir. Et vous savez, lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsque je lis les évangiles, je vois que lorsque Dieu a toujours voulu faire quelque chose de nouveau, lorsque Dieu a voulu toujours introduire un peuple, une nation, un homme, une femme, dans une dimension nouvelle de gloire, de puissance, d'autorité, de vie, Dieu a toujours voulu que ce peuple, cet homme, cette femme puisse passer par ce qu'on appelle la repentance. Chaque fois que Dieu parle de repentance, tu peux réellement t'apprêter à dire quelque chose va se passer dans ma vie. Chaque fois que Dieu t'amène à te repentir, chaque fois que Dieu te dit il faut que tu te repentes, tu dis ça sent une bonne nouvelle. Ça sent une bonne nouvelle. Ça sent une bonne chose. C'est pourquoi je te le déclare que ce matin, si tu reçois la parole de vie, si tu reçois la parole de Dieu, si tu reçois la parole de repentance, je t'annonce déjà que ta vie va changer. Je t'annonce déjà que tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Je t'annonce déjà que tu vas rentrer dans une dimension de gloire. La personne qui vous parle a vécu des moments et des temps de repentance. Et j'ai remarqué la chose suivante. Quand le diable a voulu ruiner ma vie, quand le diable a voulu détruire ma vie, quand le diable a voulu me faire croire qu'il n'y avait plus de plus, chaque fois que je me suis tourné à Dieu, parce que la Bible dit, quand on tourne nos regards vers lui, on est comment? J'ai ma femme qui me dit, calme-toi. Alléluia. Est-ce que je suis tout rouge? Ça se voit pas, ça se voit pas. On veut te faire croire que quand tu te tournes à Dieu, tu es triste. On veut te faire croire que quand tu vas te tourner à Dieu, Dieu va te condamner. On veut te faire croire que quand tu vas te tourner à Dieu, quand tu vas revenir à Dieu, Dieu va réduire ta vie. Mais c'est complètement l'inverse. Quand on tourne nos regards vers Dieu, quand on reçoit Jésus, quand on se repent de ses péchés, la vraie vie commence. Et même si tu l'as déjà goûté, et tu as dit, je suis chrétien, ça fait de longue date. Chaque fois que je me repens, je goûte une dimension de joie supérieure. Alors je disais, Jésus, Jean-Baptiste, quand ils sont venus, ils ont voulu introduire le peuple, les personnes qui les écoutaient, à une dimension supérieure. Ils ont parlé de repentance. Pas pour accabler, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus. Pour ceux qui sont habitués au texte des Écritures, on sait aussi que le jour de la Pentecôte, c'est la naissance, on va dire, officielle de l'Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre lui-même aussi va parler de repentance. Dis à la personne à côté de toi, il n'y a pas de nouveauté sans repentance. Il n'y a pas de nouveauté sans repentance. Et en fait, sans repentance, on ne peut pas accéder au nouveau de Dieu. Sans repentance, on ne peut pas accéder à ce que Dieu en réserve pour nous. Littéralement, on va le voir. La repentance, c'est une porte. Il y en a qui voient la repentance comme quelque chose qui nous ferme, qui nous bloque. Non, la repentance est comme une porte qui t'ouvre un accès à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux, quelque chose de beaucoup plus beau, à quelque chose d'excellent. On va le voir. Et il y en a qui m'ont dit, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi, depuis tout à l'heure, on m'agresse. Pourquoi on me parle de repentance? Je suis venu, on m'a dit qu'il y avait des beaux chants, que les gens étaient agréables, qu'il y avait un pasteur, qu'il y avait des rastas. Déjà, il n'a pas de rasta. Et on me parle en plus de repentance. Vous allez voir. En fait, la repentance, c'est mon premier point. C'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Littéralement, le mot repentance dans la Bible veut dire changement radical, complet de mentalité. En fait, si vous voulez réellement savoir si vous êtes repenti, posez-vous la question, est-ce que votre mentalité a changé? En fait, une repentance en transformation de mentalité, c'est juste des regrets. Mais ce n'est pas une véritable repentance. Peut-être, ça se peut qu'on a connu des moments de regret, de remords. Ah, ça, j'aimerais bien ne plus recommencer. Ça, j'aimerais être une nouvelle personne. Peut-être, j'aimerais plus refaire ces mêmes erreurs. Mais ce matin, Dieu ne veut pas juste des regrets. Ce matin, Dieu attend de nous que nous puissions accepter de changer de mentalité. Et nous avons trop souvent dissocié la façon de penser et le cœur, et les émotions. Mais on va voir qu'en fait, le but de Dieu, c'est qu'on soit tellement changé là que l'on va produire et on va vivre différemment. Je vous propose de mettre de côté vos préjugés. Je vous propose de mettre de côté vos blessures. Je vous propose de mettre de côté vos convictions. Je vous propose de mettre de côté peut-être tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez reçu depuis des années. Et de dire, Seigneur, imaginons un instant que si tu devais à nouveau me parler et recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu me dirais? Je crois, il y en a qui sont en train de prier, qui ne chantent pas. Céline Gatté, je vais oser pour toi. Parce que Céline Gatté écoute quand je chante, quand je fais de la prière, et appelle après me dit, tu m'as fait peur, tu as failli chanter. C'est très encourageant. Monsieur Petrakian, tu peux m'aider? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Parce que toi, tu as la stature. Tu as le passé. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour... Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. On va le reprendre. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. Tu peux naître de nouveau. Tu peux. Seigneur Jésus. Et repartir à zéro. Oh Seigneur, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. C'est extraordinaire de réellement réaliser qu'on peut repartir à zéro. Et quand tu acceptes de changer de mentalité, tu littéralement, tu donnes à la possibilité à Dieu de rebâtir, de refaire, de recommencer, de repartir à zéro. Je ne sais pas, peut-être que toi tu t'arrêtes au mot zéro, mais moi je m'arrête au mot recommencer. Parce que notre Dieu est un Dieu du commencement. La Bible déclare, Genèse 1:1, au commencement Dieu. Dieu aime commencer. Même quand tu as raté quelque chose, Dieu veut recommencer. Même quand tu as été esclave de quelque chose, Dieu veut recommencer. Même quand tu as été abusé, Dieu veut recommencer. Même si tu vois que ta vie est fichue, Dieu veut recommencer. Dieu ne se lasse pas de recommencer avec toi. Mais la seule chose qui peut nous bloquer, c'est que dans notre pensée, dans notre raisonnement, on limite Dieu. On dit non, c'est aller trop loin. Non, je suis allé trop loin. Non, on m'a fait trop de mal. Non, j'ai trop vécu ceci. Non, j'ai trop vu des choses atroces. Non, non, non. Moi, je te propose ce matin. Dis, Seigneur, c'est pas facile, mais je mets ma mentalité de côté. Je mets mon expérience de côté. En fait, quand on parle de changement de mentalité, c'est dire que mon expérience, mon vécu, tout ce que j'ai pu vivre est en dessous de ce que Dieu me dit. Tout ce que j'ai pu vivre est en dessous de ce que Dieu veut faire. Tout ce qu'on m'a fait est en dessous de l'amour de Dieu. Tout ce que j'ai subi est en dessous de la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai fait subir à Dieu est en dessous de son amour, de son amour, de son amour. Je veux recommencer avec toi. Je veux recommencer à t'aimer. Je veux recommencer à te changer. Tu veux recommencer à te transformer. Tu veux recommencer ce matin. Une histoire d'amour. Tu as dit c'est fini. Dieu dit non, 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 non. Ça peut recommencer. Ça peut recommencer. Il faut juste que ta mentalité, que tu acceptes de crucifier ta mentalité. Un raisonnement peut être juste par rapport à l'expérience, mais complètement faux par rapport à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ton raisonnement est peut-être juste parce que tu as de l'expérience et que tu as vécu des choses et tu dis, voilà, je suis arrivé à là avec toute cette expérience, bonne, mauvaise. Mais être complètement à la plaque parce que ça te déconnecte du nouveau de Dieu. En fait, le diable affecte avant tout notre manière de penser. Le diable affecte avant tout notre façon de voir la vie, notre façon de regarder, de lire la parole. Est-ce que tu es prêt, tu es prête à changer même de façon de croire? C'est de ça dont il est question ce matin. C'est ça en fait la repentance. Peut-être tu disais tout à l'heure, j'ai pas commis un grand péché. Non, la repentance, changement de mentalité. Moi, je me suis posé cette question. Romaric, homme fort et puissant. Quand est-ce que la dernière fois, tu as changé de conviction? Ouais, je suis un homme de conviction. En fait, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai jamais changé de conviction, il y a de fortes chances que je ne suis pas passé par la repentance. Est-ce que la repentance te fait changer des convictions? Parce que ta mentalité change. Ta mentalité change tellement que tu dis, avant je pensais que ça c'était impossible. Avant je pensais que cet homme-là n'allait jamais changer. Mais quand tu passes par la repentance, tu crois en l'amour de Dieu, tu dis, cas facile pour Dieu. Quand tu passes par la repentance, aucune situation devient impossible comme à la chanter pour Dieu. Donc la repentance nous fait changer des convictions. Peu importe comment s'est bâti notre système de croyance, nous devons être prêts ce matin à renoncer. Ce ne sont pas les faits qui dictent mon système de croyance, c'est ce que la Bible dit. Ce ne sont pas même la réalité physique tangible qui va dicter ce que je crois en Dieu. Mais c'est ce que Dieu dit aujourd'hui, ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Et notre système de raisonnement est tellement corrompu que je regardais vite fait hier pendant que je préparais ce message, toutes sortes de maladies liées à la raison. Et j'ai découvert que même l'addiction est connectée à un système de raisonnement corrompu. Et parfois dans l'église, nous avons connu tellement de choses que nous sommes dans l'addiction. Et là, je parle à des chrétiens plus anciens. L'addiction de la louange. L'addiction de ce que j'ai toujours connu. L'addiction de « il faut que ça se passe comme ça ». L'addiction de « mon raisonnement me dit que s'il y a Dieu, il faut que ça fasse ça, 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 ça ». Ensuite, je conclue, donc Dieu est là. C'est ça. Et combien? 100 000 morts par an environ à cause des addictions. Et j'entendais dans l'esprit, combien meurent dans les églises? Parce qu'on est dans l'addiction des choses. Avec des faux raisonnements. Nos raisonnements nous maintiennent addictifs d'une certaine forme de culte, de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça. On enferme Dieu dans une boîte. On enferme Dieu dans nos raisonnements. On enferme Dieu dans nos pensées. On enferme Dieu dans nos convictions. On enferme Dieu. On enferme tellement Dieu. Trouble bipolaire, le raisonnement tellement vacillant, confus, tantôt spirituel, tantôt charnel. C'est pas grave, je suis bipolaire, ça me va. Je déclare ce matin que parce que tu vas décider de changer de mentalité, que tu vas refuser la bipolarité christique. Parce que Christ n'est pas bipolaire. Christ nous remplit de son esprit. Et son esprit, la Bible dit, nous conduit dans la vérité. Il nous conduira dans la vérité. Il nous conduira dans la vérité. Si tu cherches une réponse, pourquoi tantôt tu as l'impression de marcher dans la chair et tantôt tu as l'impression de marcher dans l'esprit? Dis à Dieu ce matin, guéris-moi de cette bipolarité, je veux que mon raisonnement change. Je ne veux plus avoir un raisonnement charnel lié à mes compétences, à mon vécu, plein de choses. Et quand ça m'arrange, j'ai ce raisonnement. Et d'autres fois, quand ça m'arrange aussi, j'ai un raisonnement qui semble être spirituel. La Bible nous dit clairement que la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Quand on parle de changement de mentalité, je ne veux pas rechercher une sagesse humaine, mais je veux rechercher une sagesse spirituelle. Et le Seigneur me montrait cette parabole dont on parle beaucoup et dans notre série Alerte. C'est aussi ça qui est en filigrane. La parabole des vierges sages et des vierges folles. Et je me suis posé la question, pourquoi folles? J'ai jamais vu quelqu'un de fou être stable mentalement. Est-ce que c'est possible, ça? Tu sais, le gars, il est fou. Ah non, non, mais il a toute sa tête. Vierge folle. Parce que l'Église, en ce moment, et dans les temps de la fin, a besoin... En fait, l'épouse qui va dépendre du Saint-Esprit sera l'épouse qui va accepter la folie de Dieu. Les vierges qui vont accepter d'être folles par rapport à ce monde vont littéralement dépendre du Saint-Esprit. C'est pas parce que ça fait des années ou des mois que je suis chrétien que j'ai compris c'est quoi être chrétien. Mais cher Saint-Esprit, révèle-toi à moi aujourd'hui comme tout à nouveau, comme si je n'avais rien vécu, comme si je n'avais rien compris. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi, montre-moi, révèle-moi la croix, révèle-moi l'amour de Dieu, révèle-moi ce que tu attends de moi. Seules les vierges sages selon Dieu pourront avoir cette huile fraîche. Si tu gardes un raisonnement ancien, vieux, tu ne tiendras pas dans les temps de la fin. Et tu as besoin ce matin de changer de mentalité. Changer ses actes et même abandonner un péché. Écoutez bien, sans accepter de changer sa façon de penser, c'est planifier sa rechute. Parce que bien souvent, nous pensons que la repentance, c'est juste changer l'acte. Mais quand tu changes l'acte, sans ta manière de penser, tu vas recommencer. Parce que ce sont tes pensées, ton raisonnement, qui va finir par dicter tes actes. Donc, bien sûr, on va le voir, la conclusion, la conséquence, c'est que ma façon de vivre, mon comportement, on parle de trouble de comportement, mais ça commence là. Si je suis troublé là, je me comporte mal. Mais si je veux dire, je suis bien, je suis sage, je suis correct, je raisonne bien, mais si c'est dérangé là, ça finira par se manifester. Tu ne peux pas contenir un trouble de comportement. Et tu ne peux pas contenir un trouble de la chair. La chair est visible. C'est pourquoi je dois accepter continuellement de changer de mentalité, donc de me repentir. Deux Chroniques 7, verset 14 nous dit, « Si mon peuple, sur qui invoquer mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mais quand on lit ça, la Bible nous montre pour moi clairement, renoncer à ses mauvaises voies, c'est la conséquence de plein de choses avant. Nous, le problème, on veut renoncer sans s'humilier, prier et chercher la face. Je vous propose, à l'issue de ce message, qu'on s'humilie, qu'on prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'abandonne comme système de pensée? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne comme système de raisonnement? Seigneur, et si j'étais juste comme un enfant, comme la Bible dit, pour recevoir Jésus dans ma vie? Et si ce matin, j'arrêtais de me battre avec moi-même, avec mes pensées, que comme un enfant dit, Seigneur, je crois. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois et j'abandonne mon système de pensée. S'humilier. Si tu décides d'arrêter tes mauvaises choses sans humilité, sans chercher la face de Dieu, tu vas te ramasser en plein visage dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est peut-être l'explication de tes rechutes, parce que tu aimerais tellement changer de vie. Tu n'arrives pas. Change de mentalité. Sommes-nous réellement prêts à changer de mentalité, de conviction? Regardez bien ce qui se passe. Je vous ai dit, à la Pentecôte, il y a un homme qui s'appelle Pierre, qui prêche un message, alors qu'il vient, de vivre quelque chose de surnaturel. Bien sûr, il dit, c'est ce qui a été annoncé qu'on est en train de vivre, ce revêtement du Saint-Esprit de puissance. Mais ça prend quoi? Deux versets ou trois? Il ne fait pas une théologie sur le Saint-Esprit. Nous, le problème, c'est que quand on vit quelque chose de fort, on veut normaliser. On veut faire une théologie pour que ça rentre dans notre raison. Mais lui, parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit, va parler de repentance. Il va dire, il prêche, et la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dis à quelqu'un à côté de toi, « Tu recevras, tu recevras. » Je me mélange. « Tu recevras. » Vous voyez, Dieu est bon, hein? Dieu veut que tu reçoives. Tu es venu dans ce lieu, tu crois que Dieu te demande, te demande, te demande, te demande, te demande. La religion pour toi, c'est il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Ah, moi j'aime bien, j'allais dans une église, là, reçois, 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 j'y donne, 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 je reçois. J'aime bien dire je reçois. Que ce mensonge soit brisé ce matin. Dieu n'est pas là pour littéralement te vider. Il est là pour te remplir de sa paix. Vivement touché. C'est beau, hein? Ils eurent le cœur vivement touché. En fait, la Bible a été écrite, notamment le Nouveau Testament, en grec. Et le grec nous dit, quand on lit avec le mot grec, en fait, ils eurent le cœur piqué, transpercé, percé. En fait, c'est le même mot qui est employé lorsqu'on a percé le côté à Jésus. Ils eurent le cœur percé, comme on a percé le côté de Jésus. Donc, c'était quelque chose de face à la parole. Et plaise à Dieu que ce matin, que plusieurs ressentent ce cœur percé, percuté. Mais pourtant, ça me frappe. Ils ont le cœur vivement touché. Ils disent, que ferons-nous? Pierre ne dit pas, ah, c'est top. Vous avez le cœur touché et on va arrêter là. Maintenant, vous pouvez être baptisé. Eh non! Non, 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 non. Parce que le cœur touché ne signifie pas changement de mentalité. Kenini. Non, 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 non. Peut-être j'ai vécu de belles expériences en colo. Peut-être que mes moniteurs, monitrices m'ont parlé de Jésus, que ça m'a touché un dimanche. Mais non, 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 non. Dieu veut percer ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur, mais Dieu veut aussi et d'abord changer ta vie. Et la vie en suivra. Quand tu changes de manière de penser, tu peux changer de vie. Mais si tu crois que parce que ton cœur a été touché par un enseignement le dimanche, que ce soit ici ou à côté, et que tu ne veux pas abandonner ta manière de penser, tu ne changeras pas de vie. En fait, littéralement, Dieu ne peut pas changer ta vie. Parce que la repentance est cette porte qui permet à Dieu de changer ta vie. Le cœur vivement touché, percé, transpercé. Que ferons-nous? Pierre dit, il faut aller plus loin. Il faut que tu changes ta manière de penser. Il faut que vous acceptez d'abandonner votre manière de voir la vie. Changez de mentalité. Repentez-vous. Et va dire un truc. Nous, on lit ça, mais non, certains sont, on est habitués. Dis, mais vous allez changer de mentalité. Et commencez à croire que parce que vous allez vous jeter dans l'eau, quelque chose va se passer dans votre vie. Hein? Changez de mentalité. Repentez-vous et soyez baptisés. C'est pas juste une instruction, là. C'est comme, pour ceux qui sont habitués avec les textes bibliques, c'est comme quand Syrien doit se plonger 7 fois dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te demande? La repentance change ma mentalité, me pousse à obéir, et ensuite je reçois. Le salut est gratuit. Jésus a tout payé. Mais mon changement de vie sur terre, je dois permettre à Dieu. Dieu ne peut pas forcer la porte. Comprenez ça? Dieu me sauve de mes péchés parce que je reçois Jésus. Mais ma vie reste minable et misérable si je ne me repens pas et je ne change pas de mentalité. Et c'est pour ça que Pierre dit, repentez, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et moi, le Saint-Esprit, bien sûr, me parle d'abondance, me parle de joie, me parle de fête. Et on veut tellement vivre ça avec Dieu. Mais on veut rester avec nos mentalités religieuses. Nos mentalités de, mais moi, on m'a toujours appris comme ça. Moi, on m'a toujours dit comme ça. Nous, on a toujours fait comme ça. Mon deuxième point, la repentance, et vous allez voir, ça a commencé un peu à brasser. Là, c'était une introduction gentille. La repentance permet d'accueillir le nouveau de Dieu. On aime bien le nouveau quand même. Enfin, si tu aimes tout le temps l'ancien, il y a un problème. On ne peut pas mépriser ce qui est ancien. Mais là encore, Dieu est un Dieu qui renouvelle. Même, regardez ça. Dieu aime tellement le nouveau, il n'y a pas meilleur que ses compassions. C'est-à-dire, les compassions de Dieu, sa bonté, sont au paroxysme de tout ce que je peux penser, imaginer. Imaginez un peu que les compassions et la bonté de Dieu sont au taquet, mais même ça, il renouvelle. C'est puissant. Dieu ne se dit pas, c'est déjà pas mal. Dis à toi que Dieu renouvelle ses compassions ce matin. Dieu renouvelle ses compassions ce matin. Et cette semaine où je fais un peu de pub pour le pasteur Mathieu, il a un TikTok. Allez voir ce TikTok. Il a besoin d'un coup de main. Je faisais un TikTok. Grâce à Anaïs, nous avons été initiés à TikTok. Merci Anaïs, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et je citais ce passage de compassion, que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Et le Saint-Esprit me disait, ton péché ne peut jamais épuiser Dieu si tu te repens. Ton expérience ne peut jamais épuiser Dieu si tu te repens. Tes blessures n'épuisent pas Dieu. Dieu veut te guérir de tes blessures. Dieu veut te guérir de ton passé. Dieu veut te guérir de tout ce que tu as vécu. Dieu n'est pas épuisé. Pourquoi? Parce que chaque jour, ses compassions sont renouvelées. Donc, on va voir que Dieu, la repentance permet d'accueillir le nouveau de Dieu. Acte 10, verset 9 nous dit, c'est Pierre qui va devoir vivre un changement majeur dans sa vie. Acte 10, verset 9. Après le lendemain, comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, parce que lui connaît la loi, lui explique à Dieu ce qui va se passer, il dit, « Non, Seigneur, moi, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir, sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent. Et lorsqu'on lit la suite, on se rend compte que Pierre a dû changer de façon de penser. Pierre a dû changer de façon de penser. C'est que déjà, je vous dépeins Pierre pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent, vous allez, ça sera un bon rafraîchissement. C'est quelqu'un déjà qui a connu le brisement, n'est-ce pas? Il a renié trois fois, mais il a connu le brisement, il a connu le relèvement, la repentance. Il a tellement changé de mentalité, écoutez bien. Il a tellement changé de mentalité, moi ça m'a toujours frappé. Le gars à la Pentecôte, quand il prêche, il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez renié, hein? Il dit même pas nous. Comment vous allez réagir, franchement? Moi, j'avoue que ce jour-là, j'aurais dit, Pierre, bon, nous, quoi. Non. Parce que la repentance véritable, ça te change tellement là que tu dis, c'est pas le fait de mépriser ce que tu as fait. Mais tu as tellement goûté au pardon, au relèvement de Dieu. Tu dis, mais de qui on parle en fait? Ça ne me concerne plus, moi. C'est derrière. Waouh! Dieu veut faire ça dans ta vie. Dieu veut faire ça dans ta vie. Et donc, Pierre a connu le brisement, mais il a connu le relèvement, le revêtement de puissance. je crois, c'est il y a Dorcas, il connaît des miracles. On avait lu, je crois, dernièrement, acte 3, ce paralytique, il vit des choses extraordinaires avec Jésus, dans sa façon d'avancer. Il a même été chez les Samaritains. Acte 8, verset 27. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Vous me dites, mais pourquoi tu me parles des Samaritains? Parce qu'on sait très bien, rapidement, Jean 4, 9, quand il y avait une femme samaritaine qui a parlé de Jésus, la femme samaritaine, en fait, Jésus qui parlait à la femme samaritaine, la femme samaritaine va dire, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Le Saint-Esprit lui-même dit, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc Pierre là, un homme brisé, un homme revêtu de puissance, qui vit de surnaturel, qui ose aller chez les Samaritains, avoir prêché l'évangile. Mais aller dans la maison d'un non-juif, il n'est pas prêt, le gars. Il a logé, la Bible dit, c'est un corroyeur. Rapidement, c'est quelqu'un qui travaille avec des animaux pour, je crois, c'est le cuir, un truc comme ça. C'était pas forcément très, très, comment dire? Ça pouvait donner un sentiment d'impureté dans le contexte juif. Mais passons. Il vit tout ça, il va chez le Samaritain, il vit chez le croyant. Mais aller penser que l'évangile puisse toucher des non-croyants, des non-juifs, ça dépasse. Mais pas que Pierre, hein. Mais pas que Pierre. Regardez, quand les autres apôtres vont savoir que Pierre est allé chez des non-juifs. On parle des gens remplis de Saint-Esprit. Hein. Ceux qui pensent, parce qu'ils sont remplis de Saint-Esprit, je n'ai pas mal pensé, je ne peux pas mal raisonner. C'est des apôtres, là. Ils ont été avec Jésus, ils sont remplis de Saint-Esprit, font des choses extraordinaires. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent de reproches. Non, on lit ça, c'est tranquille, mais c'était grave. C'est grave. Pourquoi je vous donne ces textes? Parce que Dieu, il est transparent. Il est en train de nous expliquer quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de dire, tu peux vivre des choses avec Dieu. Tu as peut-être même une expérience glorieuse, des expériences fortes. Mais si tu n'acceptes pas d'être transformé dans ta mentalité, de vivre des repentances régulières, tu ne vas jamais comprendre ce que l'Esprit fait. Parce que eux, ils étaient incapables, malgré 3 ans avec Jésus, malgré le surnaturel, malgré la Pentecôte. Ils ont eu du mal. Il a fallu 3 fois dans la vision. Et il a fallu que Pierre explique aux apôtres réellement ce qui s'était passé. Et après des vives discussions, la Bible nous dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils étaient bien excités. Ils se calmèrent et glorifièrent Dieu enfin en disant, « Ah, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Serait-il possible que ça m'arrive aussi peut-être de temps en temps et que j'ai besoin que le Saint-Esprit touche mon cœur ce matin et que le Saint-Esprit touche mes pensées, change. Luc, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, consacre 3 chapitres, 10, 11, 15, pour montrer le tournant qu'a pris l'Église. Et nous sommes là, écoutez bien, nous sommes là ce matin parce qu'il y a un homme qui est allé au-delà de ses préjugés, qui est allé au-delà de ses pensées, qui a dit, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Moi, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais connu ça. Nous, ça nous paraît simple. Mais pour lui, il a dit, on a toujours dit, le peuple, lui, le Yahvé, c'est votre Dieu. Mais ils étaient loin d'imaginer que Jésus était pour les nations. Il fallait une œuvre là. Seigneur, touche-moi là. Et c'est pas pour rien que la Bible nous parle d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 de nous dépouiller du vieil homme, d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et ensuite de laisser de côté nos vaines pensées. Ce matin, c'est clair. Repentance signifie se dépouiller de ma manière de penser. Laisser de côté. En fait, bien souvent, je ne parle pas de la gravité de ce que nous avons vécu ou subi. Mais bien souvent, ce qui reste grave, ce ne sont pas les faits, mais ce que les fins ont produit dans notre système de raisonnement. C'est pourquoi l'ennemi nous enferme dans des situations et dans des expériences tellement douloureuses. On croit que ce sont ces expériences qui nous enferment. Mais c'est notre manière de réagir et notre système de raisonnement qui devient corrompu. Et c'est tellement factuel. On se dit, on est sage. Mais non, tu deviens bipolaire. Ah, oh, je suis sage. Mais non, tu es schizophrène. Je suis sage. Mais non, tu deviens addictif. Il faut être renouvelé. Et j'avais cette image du renouvellement de dialyse. Il faut que le sang soit changé. Quand quelque chose est renouvelé, c'est renouvelé. Franchement, on peut regarder les Grecs, le docteur Joël peut... Renouveler veut dire renouveler. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu n'obéis pas à cette simple directive que nous soyons transformés, pas par le renouvellement de nos émotions. Renouveler dans notre intelligence. Soit dis à quelqu'un à côté de toi, sois intelligent. Ne sois plus bête. Arrêtez-vous là. Et je termine avec ça. Mon chrono est fini. Je termine avec ça. Si les musiciens peuvent monter, s'il vous plaît. Ça m'a toujours fracassé. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est dans le réveil. C'est exactement ce qui se passe aussi dans ce contexte de Pentecôte. Où on comprend pas comment des disciples ont pu être à ce point aveuglés. Il fallait vraiment qu'ils acceptent cette transformation d'intelligence pour entrer dans le nouveau de Dieu. Et avant de vous donner cette histoire, j'aimerais réellement que vous captiez que ce matin, si vous acceptez de changer de manière de penser, vous êtes loin d'imaginer comment ça peut bénir les gens. Pierre était loin d'imaginer qu'un jour, un homme venant du Congo, habitant 142 boulevard des Armaris, s'appelant homme fort et puissant, allait s'adresser à une congrégation composée de blancs et de noirs, et qu'il allait parler de repentance. Pierre, il était loin de penser ça. Mais parce qu'il a accepté d'échanger là. 1901, naissance du mouvement pentecôtiste. Azusa Street, pour ceux qui connaissent. Parle en langue. Le Saint-Esprit agit avec puissance. Des temps de réveil extraordinaires commencent. 1904, ça m'a toujours frappé. Une école biblique à Houston, un homme de 31 ans du nom de William Joseph Seymour assiste au cours biblique à côté, dans l'autre salle annexe. Pendant que les cours officiels se déroulent là, lui, il est à côté. Pendant que celui qui parle et enseigne parle du Saint-Esprit, parle de Dieu, parle de l'amour, parle de la gloire, parle de la justice, parle de l'égalité, de l'équité. Lui, il est à côté. Vous savez pourquoi? Et là, ce n'est pas une question. J'aurais été blanc. D'ailleurs, je suis blanc là. En ce moment-là, pensez que je suis blanc. Voilà, regardez, Omar. Il est blanc. Ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau. Il est noir. C'est mou. Il ne peut pas être avec les étudiants blancs. Ouh! Comment on est dans un institut biblique? Théologie, temps de réveil. Et tu as un Seymour à côté parce qu'il est noir, qui écoute. Il va être touché malgré tout. Il va être un instrument extraordinaire pour le réveil. Mais Seigneur, est-ce possible que moi, aujourd'hui, en 2022, que je parle de l'amour de Dieu, que je parle de la grâce, que je parle du surnaturel et que je reste enfermé? Je dis non, Seigneur. 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 Je veux recevoir ta mentalité. Je veux recevoir ton changement. Je veux recevoir ta parole. Je veux recevoir ta vie. Je suis prêt ce matin à renoncer à mon vécu. Je suis prêt ce matin à renoncer à ce qu'on m'a appris. Je suis prêt ce matin à renoncer à ce qu'on dit. Je suis prêt ce matin à renoncer à ma sagesse humaine.